Bonsoir, vous êtes à l'écoute de Radio Coiffure Merlan. Désormais, Merlan Radio Coiffure diffuse sur tout le quartier et probablement au-delà. Suivez sur le 107.9 les manifestations des artistes de rue les plus renommés d'ici et d'ailleurs. En effet, Noisy-le-Sec, après s'être doté de la plus grande compagnie de théâtre de rue du monde solvable, la ville se dote aujourd'hui d'un puissant outil de communication et de propagande, Radio Coiffure Merlan. Vous écoutez Coiffure Radio Merlan sur le 107.9, la véritable radio de proximité, alors ne vous éloignez pas.
Mais que s'est-il passé alors qu'il y a 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure seulement, c'était le voisinage Bon Enfant. Tout semblait devoir se passer dans les meilleures traditions, je vous rappellerai à tout à l'heure.
Sur l'antenne dès aujourd'hui, vivez les 17e rencontres d'ici et d'ailleurs. Une authentique manifestation d'artistes de rue, véritable moment d'échange et de confrontation partagée.
Et maintenant, en direct, comme vous le disiez tout de suite, les CRS chargent. Je suis en plein dans la chaire des CRS, ils contre-attaquent tandis que les pierres volent autour de nous, que les grenades explosent. C'est extraordinaire ce spectacle. Les voitures ont été mises en travers de la roue. Voilà une pierre qui tombe juste à côté de moi. C'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici. Une scène d'une violence inouïe.
Je vous rappellerai à tout à l'heure.
Et tout de suite, une première information, puisqu'il semblerait qu'à Noisy-le-Sec, rue de Merlan, l'ingénieux Hidalgo Jean-Raymond Jacob et son fidèle comparse Kike Jiménez livrent vaillamment bataille culturelle place du Moulin Fondu, où nous retrouvons sans plus tarder Monsieur Kamel. Monsieur Kamel ?
7
16
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Alors là, on est au moment où les rencontres vont commencer, elles commencent, elles s'entrouvrent. Et à ce moment-là, là, c'est vraiment le moment magique où les gamins sortent tous dans la rue parce que la rue vient d'être bloquée pour les autos. Et du coup, c'est les gamins qui s'en emparent. Et c'est le moment magique où les fenêtres qui étaient aveugles et ou borgnes jusque-là commencent à s'ouvrir et on voit les gens. Ça y est, on voit des personnes qui commencent à, pour l'instant, à sortir en gardant les bras croisés et les yeux un petit peu froncés. Et puis on voit les visages qui s'ouvrent tout doucement sur le goudron, la rue.
Tant qu'il y a d'un côté des manifestants, de l'autre côté des policiers, nous sommes du côté des manifestants et nous n'en sortons pas.
Suite des aventures de Jean-Raymond Jacob, l'Hidalgo ingénieux. Sur ces entrefaits, Jean-Raymond Jacob, l'ingénieux Hidalgo, croisa sur son chemin une douzaine d'hommes enchaînés à leur téléviseur. Jean-Raymond pria à un des gardiens de l'informer de la cause pour laquelle ces malheureux étaient forcés de rester devant leur téléviseur. « Ce sont des forcés de télé, » répondit un des gardiens. « Ils sont au service du taux de croissance. Je n'ai rien de plus à vous dire. » « Cependant, » répliqua Jean-Raymond, « j'aimerais connaître la cause de leur disgrâce. » Alors Jean-Raymond s'approcha des chaînes et demanda à chacun pour quel péché ils étaient en si triste situation. Le premier était chômeur entre 15 et 65 ans, le second retraité à moitié noiséen et à 20% de Seine-Saint-Denis, le troisième ménagère de 49 ans et demi, issu de tous les milieux et provenant de tous les secteurs professionnels. Nous avions arrêté de consommer. C'était irresponsable. Nous sommes bien punis, dirent-ils en chœur. Un homme était attaché bien différemment de ses compagnons. Il portait un téléviseur qui lui avait été vissé au crâne et le bouton était enfoncé sur la première chaîne. Jean-Raymond demanda pourquoi cet homme avait été ainsi formaté. Le gardien répondit que c'était parce qu'il avait commis à lui tout seul plus de crimes que tous les autres réunis. Il avait jeté son téléviseur, lacérait des affiches publicitaires et refusait de remplir son caddie à Ronnie 2. C'était un si rusé coquin qu'ils avaient tous peur qu'il ne parvînt à s'échapper de la mire. Je découvre clairement que bien que l'on vous ait puni pour vos fautes, les châtiments que vous allez subir ne sont pas à votre goût et que vous regardez la télévision contre votre gré. J'ai fait vœu de porter secours aux malheureux incultes et aux faibles d'esprit. Je veux donc prier, messieurs les gardiens, de bien vouloir vous détacher et de vous laisser aller en paix. Voilà une gracieuse plaisanterie, s'écria le commissaire. Allez donc, passez votre chemin. Vous n'êtes qu'un goujat, répondit Jean-Raymond. Et sans crier gare, il s'élança sur lui avec tant de furie que le commissaire s'écroula grièvement blessé d'un coup de lance. Les gardiens, stupéfaits de cette attaque inattendue, reprirent bien vite leurs esprits et assaillirent tous ensemble Jean-Raymond. Il eut sans doute passé un mauvais quart d'heure si les forcés de télé, voyant une belle occasion de recouvrer la liberté, n'avaient brisé leurs chaînes. Ils vidèrent bientôt le champ de bataille de tous les gardes. Jean-Raymond appela alors tous les forcés de télé et leur tint ce discours. « Vous avez vu le bienfait que vous avez reçu de moi. Je désire donc que vous vous mettiez immédiatement en chemin pour vous rendre à la 17e édition des rencontres d'ici et d'ailleurs et que vous alliez manifester avec les artistes dans la rue. Après quoi, seulement, vous pourrez vous retirer. » Les forcés de télé, se voyant traités si cavalièrement, firent pleuvoir sur Jean-Raymond une telle grêle de pierres qu'il n'avait pas assez de mains pour se couvrir. Jean-Raymond, se voyant dans un si triste état, dit à Sancho Enrique Jiménez, « J'ai toujours entendu dire que faire du bien à la canaille, c'est comme de jeter de l'eau à la mer. Mais la chose est faite. Prenons patience pour le moment et tirons expérience pour l'avenir. »
Merlan Radio Coiffure, un média libre et indépendant, chaleureusement accueilli par Monsieur Pierre Bouygues, coiffeur entreprenant.
C'est pour la barbe ou les cheveux ? Je vous laisse les pattes. Allez, je vous dégage la nuque. Oh, et bien dégagé autour des oreilles. Je vous mets du gel. Une petite couleur. Allez, on fait quelque chose hein, pour les cheveux blancs. Bien, je fais bien court, hein, oui. Allez, on fait des mèches. Ça, c'est pour Pierre. Ça, c'est en plus. Je peux vous prendre à 18h. Oh, j'ai une petite place avant 20h. Allez, on est ouvert jusqu'à dimanche. Dimanche, on est ouvert, mais c'est exceptionnel. Ça beaucoup trop. Il fait pas trop chaud, madame, sous le casque? Un petit thé, un petit café? Alors, qu'est-ce que je vous offre? Chocolat, lait, café, sucre. Une petite mise en pli. Alors, oh, oui, une petite coupe, là, regardez, c'est un petit peu trop chargé, là. Hein. Allégeons tout ça. Voilà. Tour de rétro, regardez, ça vous va derrière la glace, là, regardez ça. Oh, superbe. Voilà. Et merci, bien sûr. Merci bien et à la prochaine. Et bonne journée. Ah, mais bienvenue, bien sûr, bienvenue chez Pierre, le salon où il y a de la lumière. Alors, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Et bienvenue chez Pierre.
Je suis Pierrot, comme Pierre Brille, Pierrot le coiffeur de la rue de Merlan, ça fait 50 ans que je suis là. Ça va faire 50 ans, je suis venu là à l'âge de 6 ans avec mon papa. Mon papa tenait le magasin de 1956, il a tenu jusqu'à 85, j'ai repris un petit peu sa succession. Mon chapeau, je suis même content que vous soyez là, il serait content de voir ça, il a 90 ans maintenant, il est encore bien. Je fais un petit hommage quand même à mon père, parce que c'est lui le fondateur. Et voilà quoi. Donc j'ai agrandi le salon et donc là maintenant c'est Merlan Coiffure quoi. C'est un petit salon de coiffure qui tourne gentiment et qui nous a fait vivre de 50 années quoi. Et je voudrais bien après que ça continue, que ça soit un jeune qui reprenne dans les années futures, parce que là je vais m'accrocher encore quelques années quoi. Malgré les difficultés actuelles du commerce quoi. Mais bon, sinon la rue est sympa et tout, on a une bonne entente entre voisins, tout ça, c'est très 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 agréable quoi, hein. C'est très très sympathique et très agréable à vivre. C'est pour ça qu'il faut essayer de continuer quoi. Voilà en quelques mots mon parcours qui est assez long mais qui est quand même très agréable quoi. Voilà, cher ami.
Donc le salon qui est ouvert à tous là pendant ces 3 jours de manifestation.
Tout à fait. Voilà, tout à fait. La compagnie Opposito va effectuer son petite manifestation annuelle, la fête de Merlan. Ça c'est très bien d'ailleurs, parce que ça fait quand même peut-être maintenant une dizaine d'années qu'ils se produisent. Et on est bien content de les avoir, parce que sur un quartier comme le nôtre qui s'est un peu appauvri, bah, ça donne un petit peu d'activité et puis malgré tout de festivité quoi. Ça donne un peu de baume au cœur à tout le monde. Et puis bon, même si tout le monde expose ses revendications, c'est quand même bien quoi, c'est bien agréable de voir un petit peu la fête quoi. Voilà docteur.
Et une fois par an, est-ce que c'est assez?
Bah, c'est-à-dire que dans le temps, nous en tant que commerçants, on engageait pas mal de choses, on avait des associations et on faisait une brocante entre deux, une petite fête à droite, enfin on animait quoi, on faisait une tombola en fin d'année, on a fait gagner des lots, on a fait plaisir un peu à tout le monde. Mais maintenant, étant donné qu'il n'y a plus personne comme artisan, commerçant, c'est difficile d'organiser quelque chose quoi. Quand on se retrouve à 5 personnes au lieu de 35, c'est difficile de gérer quoi. Alors voilà, ça c'est un petit peu la difficulté, donc c'est pour ça que Opposito est vraiment le bienvenu quoi. Hein, et puis voilà quoi. Mais on est toujours ouvert à faire autre chose. Hein. La rue est très active. Il y a quand même quelques associations qui tournent parallèlement au commerce quoi. Style Clotilde, les fonds du Merlan ou les peintres ou les artistes peintres qui exposent ou des choses comme ça. Et ça c'est très très bien. Et il y a pas mal de petits artistes, comme j'ai toujours dit, de petits artisans qui reviennent sur Merlan parce que le caractère est là. Et malgré tout, ça fait plaisir, quoi. Ça donne un petit peu de mouvement, quoi.
Mais quelle allure sur Radio Merlan Coiffure!
Nous interrompons nos programmes pour une information de dernière minute. Il semblerait qu'à Noisy-le-Sec, rue de Merlan, l'ingénieux Hidalgo Jean-Raymond Jacob et son fidèle comparse Quique Jiménez, plus communément appelé Don Quichotte et Sancho Panza, livreraient vaillamment bataille culturelle face au moulin fondu.
Allô Paris, allô Paris. Allô Paris. Vous m'entendez? Bon, alors, nous sommes assaillis par des manifestants qui prennent la radio de force. Oui. Hein, alors, nous avons toujours les portes fermées. Nous résistons au maximum, mais je pense qu'on va être forcé de céder, car il y a 10 000 types dans la rue, et oui, si nous cédons pas, je pense qu'ils vont tout casser en entrant.
Suivez dans votre poste radio les 17e rencontres d'ici et d'ailleurs.
Mais quand tu dessines dans la rue, c'est des arts de la rue ou pas?
Loïc Faujour dessine aussi avec la bouche.
On est avec Loïc Faujour et on est dans le bar de l'ambassadeur, à l'ambassade du Merlan. Ouais, l'ambassade du Merlan. On est à l'ambassade du Merlan et toi, tu arrives à Noisy-le-Sec.
Je suis venu déjà faire des repérages puisque j'ai été à Oposito plusieurs fois pour des rendez-vous pour voir qu'est-ce qu'ils voulaient exactement. Donc je sais pas toujours ce qu'ils veulent, mais moi par contre je suis là pour les 3 jours et la rue pour moi pour le moment c'est une rue un peu comme une autre, enfin, elle semble avoir un peu plus de vie que les rues de banlieue que je côtoie à Pantin. Hein, mais ouais, ça m'a l'air assez sympathique. Mais c'est avant la tempête. On va voir qu'est-ce que ça va faire avec les 3 jours de fête, avec tout le monde qui arrive. Alors qu'est-ce que ça va donner. Mais voilà, ça peut changer complètement. Ça va changer d'ailleurs sa configuration totale. Hein. Donc voilà.
Alors là, on est, tu le disais, on est juste avant le début des manifestations, de rue. Et toi, j'ai pas exactement compris ce que tu vas faire. Est-ce que toi-même, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas couvrir en dessin le festival?
Ouais, je sais pas si je vais faire ou des portraits. Je sais pas. On m'a installé sur une table, mais je sais pas si je vais plutôt aller regarder, discuter avec les gens, faire l'interprétation, comme j'ai fait ce soir là, en discutant, en rencontrant les 2 personnes de la grosse collection. Où justement la discussion qu'on a eue m'a donné des idées sur justement leur spectacle à eux, plutôt que de les dessiner en train de faire des tours de magie. C'est plutôt ça mon domaine de prédilection. De toute façon, ça serait plutôt l'interprétation par rapport à ce que je vois, plutôt que de dessiner ce que je vois. Je peux dessiner aussi ce que je vois, mais ça me plaît moins. Je pense que tant qu'à mettre des trucs sur les murs, autant que ça soit des idées. C'est plutôt ça. Donc maintenant, à voir si l'inspiration est là, ça c'est autre chose. Donc on verra comment ça va se dérouler sur les jours qui viennent.
Ce faux jour, d'habitude, alors toi tu bosses beaucoup pour les journaux, un peu toutes sortes de journaux, plus ou moins diffusés, plus ou moins glorieux. Mais tu bosses chez toi, enfin, t'as un atelier où tu t'enfermes le matin pour en sortir tard le soir après avoir fait ton boulot. Là, d'un seul coup, c'est les conditions de travail qui sont complètement autres.
Oui, un petit peu, parce que c'est du travail sur le terrain, mais ça me dérange pas parce que moi j'aime bien à la rigueur venir sur place, pas forcément pour dessiner, mais pour regarder et redessiner le soir chez moi de mémoire. Ce qui a l'avantage, c'est que de toute façon, quand tu dessines de mémoire, tu t'emmerdes pas avec les détails, tu vas à l'essentiel. Ça, c'est vachement bien. Moi, ma technique, ça serait plutôt celle-là. Ça serait de redessiner de mémoire des choses que je vois, mais la mémoire fraîche, hein, c'est-à-dire dans la soirée, voire le lendemain matin, quoi, maximum. Ça c'est une bonne technique, voilà. Plutôt que de faire les aquarelles du dimanche ou les faire du croquis sur place, ouais, c'est ça qui me plaît. Je préfère prendre des notes finalement que de faire des dessins. Ouais, ça me plaît plus. Sauf dans le cas évidemment de portraits que tu fais avec les gens en face de toi, mais de toute façon moi les portraits je les fais pas comme les gens sont, je les fais comme je les vois. C'est donc évidemment chaque fois c'est ouais vous m'avez fait cette gueule là, ben oui mon petit gars je t'ai fait cette gueule là et puis et puis c'est comme ça et puis c'est pas grave et voilà. Non, j'ai pas fait les Beaux-Arts pour faire la chapelle Sixtine. Moi, j'ai fait les Beaux-Arts parce que je voulais faire des personnages qui me ressemblent, comme je les vois. Voilà.
Mais là, il y a une configuration particulière parce que tu vas bosser en public. T'es non seulement pas chez toi, mais en plus t'es pas tout seul.
Ouais, mais ça me dérange pas de bosser en public. Ça dépend qu'est-ce que je dois faire en public. Si c'est pour faire un exercice de performance, j'aime pas trop. Mais dessiner en public pour une fois que tu dessines, moi j'oublie que le public est autour de moi. Ça dépend qu'est-ce que j'ai à faire. Mais non, faire un numéro avec un peu genre le portrait de la place du théâtre, alors ça moi je déteste ça, quoi. C'est-à-dire les gens qui te jugent sur la ressemblance, non je m'en fous, ça me dérange pas de bosser en public. Je le fais quand je fais des débats en direct, je le fais devant plusieurs centaines de personnes, je suis souvent enfin pas sur scène, des fois sur scène, des fois sur une table à côté de la scène face au public, et je préfère 10 fois ça à être en régie par exemple. J'ai le contact direct avec les gens, ça me dérange pas, je les oublie au bout de... Quand une fois que t'es dedans, tu les oublies. Les 300 personnes qui sont là, tu les entends rigoler de temps en temps, et puis voilà. Mais non, tu les oublies, t'es dans ton truc.
Parce qu'il y a un vidéo, pour expliquer le dispositif, il y a un vidéoprojecteur sous lequel tu mets tes dessins et ça apparaît, toute la salle le voit pendant qu'il y a des intervenants.
Voilà, c'est ça, il y a des intervenants sur scène avec un public, soit il y a des débats qui s'installent, soit les gens écoutent, et puis moi, pendant que les gens parlent, je dessine et j'interprète ce qu'ils disent ou ce que je vois. Donc effectivement, c'est un exercice plus facile dans la mesure où les gens qui débattent en permanence changent de sujet et me donnent aussi d'autres directions. Voilà. C'est évident que la confrontation et la discussion, c'est ça qui amène les idées. Il est très dur de... Moi, je déteste bosser tout seul dans mon atelier quand on fait un journal. Il vaut mieux le faire à plusieurs. Donc là, c'est pareil. S'il y a des intervenants, des fois, ça donne d'autres directions. Puis il faut aussi dire que des fois, il y a des intervenants qui te plombent. Ils n'ont rien à dire, c'est chiant. Et c'est là qu'il faut sortir des idées pour justement avoir un peu plus de concentration dans le public. Parce que si moi, je m'emmerde, ça veut dire que le public aussi s'emmerde souvent. Donc voilà. Je suis souvent appelé pour des débats chiants, finalement. C'est parce que les gens savent d'entrée qu'ils vont se faire chier. Puis souvent, l'après-midi, quand ils ont picolé à midi, qu'ils se sont enfilés une assiette de Macédoine avec du tarama, avec deux verres de pif, plus de la pâtisserie, toi, alors qu'ils sont déjà tous en surcharge pondérale dans leur... au conseil général, toi, ils sont tous en train de roupiller, donc il faut les réveiller. Toi. Mais ça, ils aiment bien, ça les fait rire. J'ai confiance dans le sens critique des individus. On peut aller très loin dans ce genre de débat. J'ai vu sur des trucs très sérieux qu'on pouvait vraiment se lâcher et aller très loin. Donc après, une fois que les dessins sont finis et qu'il faut republier, c'est là qu'on retombe dans les travers, à savoir qu'il y a une sélection des dessins, un choix des dessins qui est fait. Et là, ça passe plus. Parce que là, on redevient dans l'institutionnel. Voilà. Parce qu'un journal de conseil général, c'est une institution. Donc, mais par rapport aux individus qui sont là, il n'y a aucun problème.
Alors donc là, c'est en public, mais peut-être tu nous dis deux mots de ce que tu vas faire. J'ai pas compris comment tu allais être affiché. Est-ce que toi-même tu sais ce que deviennent tes dessins au fur et à mesure?
À l'origine, de toute façon, comme on s'est dit que c'était dans la rue, on n'allait pas mettre des formats papier-machine dans la rue qui ne se voient pas. Donc les dessins que je vais faire ce soir, sans doute en rentrant, quelques trucs seront tirés sur une tireuse de plan, truc d'architecte. Donc on passe d'un format papier-machine à un format affiche, tout simplement, et en noir et blanc. Et donc ça donne une grande lisibilité dans la rue, puisqu'il faut un format minimum. Donc ces dessins-là seront affichés sur le fronton du moulin fondu, c'est ça ? Du moulin fondu, voilà. Donc c'est ça le principe. Et donc d'essayer de trouver des dessins qui sont en rapport avec les trois jours de fête d'Opposito, avec la ville, avec le temps, avec les spectacles, on va voir. Voilà.
C'est bien, c'est sérieux là, on n'a pas déconné. Oh bah, tout à l'heure, de toute façon, on a décidé de faire l'interview permanente. Toutes les deux heures, on refait une interview avec toi.
Oh, les emmerdeurs, putain, c'est pas vrai. Toi. Les gauchistes.
Bonjour Loïc. L'homme qui dessine à la radio, c'est Loïc Faujour sur le 107.9.
Vous habitez par ici?
Oui.
Alors, comment vous trouvez la rue de Merlan? Vous la trouvez paisible, agréable? Trop de voitures?
Par moment, c'est trop de voitures. Des fois, il y a trop de voitures, voilà. Mais sans quoi, il faudrait refaire la rue. Parce que je trouve qu'elle est un peu vétuste.
La rue ou les trottoirs ?
Les trottoirs, même la rue, le tout. Que ce soit... Ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont mis un arrêt là, parce que bon, il y a beaucoup d'enfants qui sortent. Ce qui est bien, puis voilà.
Parce qu'il y a une école là ?
Non, il y a une résidence. Et bon, ici, où il y a le stop, il y a beaucoup d'enfants. Parce que l'école est derrière. Mmh. Donc voilà.
Et vous êtes au courant qu'il y a des manifestations prévues
Oui. Oui. Oui, oui, on est assis au-dessus. Ah bon, on les voit.
Donc ah bon, alors, c'est quoi ces manifestations, vous êtes au courant?
Ben, c'est des manifestations d'artistes qui font des défilés. Et puis ils font des grandes marionnettes.
Donc, alors, nous, on a cru que c'était des artistes de rue. Et aussi, ils se manifestent pour refaire la rue. On ne comprend pas très bien.
Non, je ne pense pas que ce soit ça.
C'est quoi leur revendication, alors?
Alors, je ne peux pas vous expliquer.
On n'est pas du coin, nous.
Je ne peux pas vous expliquer, mais là, je n'ai pas beaucoup de temps pour prendre chez le médecin.
D'accord. Bon, on va essayer, on va continuer.
Merci.
Merci bien.
Au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Nicolas, tu trouves pas que c'est vachement tranquille, la rue du Merlan, comme ça? Tranquille, une petite voiture, un peu de temps en temps. On est dans la rue, quoi, hein, c'est ça, on est à la rue. Mais, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des... Les habitants de la rue sont surtout des voitures pour l'instant.
C'est tranquille, hein?
C'est ça, c'est tranquille.
C'est pas vraiment bucolique, mais...
Il y a un arbre là-bas. Ah non, c'est un pylône.
C'est de l'autre côté de la rue. Il y a effectivement... la rue est arborée. Mais pas de ce côté-là. Puisque là, c'était le côté des commerçants, donc il fallait pas trop d'ombre.
Oh, regardez, une autre voiture.
Ben voilà ce qu'on peut entendre devant chez Pierre, rue de Merlan à Noisy-le-Sec, un jour de calme, de calme social, quoi. Donc sans manifestation.
Pas de manifestants, voilà.
La paix sociale règne aujourd'hui, rue de Merlan à Noisy-le-Sec.
C'est tranquille pour les Noisés, hein, quoi. Ils peuvent se balader tranquille, il y a pas de risque d'émeute, il y a pas. Ils risquent pas d'être pris dans des échauffourées entre les manifestants de rue et la police.
Il y a beaucoup de voitures quand même, c'est un peu dangereux pour... Tiens, il y a une voiture de police justement. Il faut faire attention pour les enfants quand même. Il y a et de la police et des voitures. Et des voitures de police, donc ça fait quand même ça.
Tu regardes une voiture blanche?
Non, parce que... Bon. On parle d'émeutes, de révoltes, bon, de manifestations les jours qui viennent, mais bon, c'est un mythe, Pierre, ou il y a vraiment des problèmes en banlieue aujourd'hui?
Alors, on ne peut pas nier qu'il y a des problèmes en banlieue aujourd'hui, par exemple. Regardez l'état du trottoir, l'état de la chaussée, mais le climat social a l'air paisible. On se dit, est-on assis sur une poudrière ou bien tout ça n'est-il qu'agitation médiatique? Mais je vois une habitante qui s'approche, peut-être Antoine.
S'il vous plaît, on peut vous poser une question? C'est pour la radio de Merlan. Rue du Merlan, oui.
Rue du Merlan, oui.
C'est bien ici? Donc on ne s'est pas trompé. Parce qu'on fait justement un petit portrait de la rue. Vous habitez-vous le quartier?
Oui, j'habite le quartier.
Alors qu'est-ce que vous pensez de la rue? Est-ce que bon, le cadre de vie vous convient?
Oh oui, ça me convient parfaitement.
C'est vrai?
J'aime bien cette rue, ouais.
Depuis combien de temps vous habitez ici?
Très très longtemps.
Et...
Très 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 longtemps.
Ah bon?
Ouais. Et... Dans les années 80.
Et vous l'avez vu changer?
Oui. Et les changements, bah, déjà les immeubles, là, avant ils n'y étaient pas, donc il n'y a pas très longtemps ils y sont, donc on a vu le changement, oui.
Et alors nous, on est accueillis par Pierre, le coiffeur, donc on va rester là quelques jours ici, parce qu'on nous a dit qu'il allait y avoir des manifestations ici.
Oui, à la fête de rue de Merlan, donc comme chaque année au mois de mai, je crois que c'est le 17, 18, non, je ne sais plus.
Et, ouais. Et vous y participez?
Oui, on vient, on regarde, et on participe au spectacle.
D'accord.
Avec les enfants, avec tout le monde.
D'accord. Voilà. Et là, il y a beaucoup de voitures qui passent, non? Non, ça va, on s'habitue?
Bon, on s'habitue, voilà. Oui. Bah, c'est normal, hein. Il faut bien qu'il passe quelque part. Hein. Quelque part, ici ou par ailleurs.
Bon, bah, merci.
Non, oui.
Juste une chose, parce que les gens manifestent, mais vous savez quelles sont leurs revendications?
Franchement, non.
Non.
Moi, je manifeste pas, donc. Tout va bien.
Mais vous ne pensez pas que c'est un mal nécessaire des fois de manifester ?
Il y a des personnes qui ont besoin de, d'aller de l'avant et de manifester, de dire ce qu'ils pensent. Il y a d'autres qui sont plus réservés, donc comme moi. Là aujourd'hui j'ai trop parlé, donc je vous laisse. Au revoir.
Au revoir.
On est devant devant chez Pierre. 73 bis.
Voilà.
Vous habitez la rue ? On peut vous poser d'autres questions ? Attention ! Un pavé ! C'est un pavé ! Une voiture ! Attention, une voiture !
Oh la vache !
Nous sommes rue de Merlan, nous serons toujours du côté des voitures. De manière, ici il n'y a plus de commerçants, c'est simple.
Voilà, c'est ça.
Donc si tu veux.
Il n'y a plus de vitrines, c'est ça que ça veut dire. Donc il n'y a plus d'espace public au pied des maisons. C'est des espaces de circulation. Donc ça circule.
Voilà.
Ça circule.
Donc il faut prendre sa bagnole pour aller faire ses courses. Voilà. La boulangerie a fermé il y a quelques mois.
Voilà.
Alors on va demander à Pierre qui nous confirme. Pierre il est en train de coiffer là, donc on va pas le déranger. Mais il y avait une boucherie de bœuf, une boulangerie, une charcuterie, un coiffeur bien sûr, et une boucherie chevaline. Tout ça dans le même
Sur le même trottoir. Ouais.
Sur le même trottoir.
Et là, il n'y a plus qu'un coiffeur. Voilà. Et un magasin d'ambulance. Le magasin d'ambulance a d'ailleurs gardé l'ancienne enseigne. Et c'est marqué spécialité égyptienne. Je pense que ça veut dire que c'est l'ancienne enseigne. Hein. Je ne pense pas que ce soit des urgences spéciales.
Et les voitures passent.
Des bandelettes, peut-être.
Ben, bienvenue rue de Merlan à Noisy-le-Sec.
Est-ce qu'on peut dire, comme le rédacteur en chef du Monde il y a quelque temps, qui disait juste avant les événements de mai, la France s'ennuie, est-ce qu'on peut dire la rue Merlan s'ennuie pour l'instant ?
S'il vous plaît, on peut vous poser deux, trois questions. C'est pour la radio, Radio Merlan. On va faire une radio pendant quelques jours ici sur la rue. Et on voulait justement se poser une question. Est-ce que la rue... la question, ce serait... quel est un peu... Vous habitez rue de Merlan ?
Non.
Est-ce que c'est animé ? Est-ce que la rue de Merlan s'ennuie aujourd'hui ?
Oui.
Oui.
À mon avis, elle s'ennuie. Enfin, moi, comme événement, ici, je connais que la fête de Merlan. Et hormis ça, tous les jours, je prends le chemin. Quand je vais au lycée, tout ça, pour moi, c'est très calme. Je pense.
Mais trop ?
Un peu trop, ouais.
Ouais.
Mais en même temps, il n'y a pas énormément de gêne sur cette rue, mais bon, pour moi, c'est très calme.
Et c'est quoi cette fête ? Alors, vous parlez de la fête de Merlan ?
J'ai assisté une fois, et je sais que souvent, ils font... c'est comme une pièce de théâtre, mais ambulante, qui fait toute la rue, qui descend, qui fait Noisy un peu, qui revient ici et tout, ouais. Je viens pas chaque année.
Mais ils arrêtent les voitures ou il y a des blessés, des victimes ?
Non, pas du tout. La circulation, elle est déviée.
D'accord.
Et après, bon, c'est libre.
Mmh. Bon. Et alors, juste moi, je n'habite pas dans le département du tout. Et je suis assez surpris parce que dans ma télé, moi, on me dit tout le temps, en banlieue, il n'y a que des jeunes et c'est un problème. Et là, alors, vous venez de nous confirmer qu'il n'y a pas trop de jeunes dans la rue.
Pas dans cette rue-là, en tout cas.
Je suis très surpris parce que j'entends jamais parler dans mon téléviseur des vieux de banlieue. On parle toujours des jeunes de banlieue, mais alors, il y aurait des vieux de banlieue ?
je sais pas si j'irai jusqu'à dire des vieux de banlieue. Mais je sais que moi, c'est très calme. Même les jeunes qui habitent ici, ils ne traînent pas dans la rue de Merlan.
Non.
Non. Ils traînent soit à la gare ou ou autre part, mais pas dans la rue de Merlan. De ce que moi, j'en connais.
Voilà. Donc, c'est pas vraiment la banlieue, ici.
Pas cette rue-là.
Non, c'est...
Non,
On cherche la banlieue, mais on la trouve pas. C'est ça, on n'arrive pas à trouver.
Bah. Allez, au Landau, vous allez la trouver, ou bien au marché.
Au Landau ?
Au Landau, il y a de la banlieue là-bas.
Landau, ouais, c'est la cité qui est juste à côté, où il y a le marché, le centre-ville, tout ça.
D'accord.
D'accord. Donc là, c'est plus animé, quoi.
Ouais.
D'accord. Donc, c'est bien ce qu'on se posait la question. On s'ennuie rue de Merlan.
Oui.
Un petit peu.
La rue de Merlan s'ennuie.
La rue de Merlan. Merci.
Merci.
Noisy-le-Sec, après s'être doté de la plus grande compagnie de théâtre de rue du monde solvable, Noisy-le-Sec se dote aujourd'hui d'un puissant outil de communication et de propagande. Radio Coiffure Merlan. Écoutez Radio Coiffure Merlan sur le 107.9. En modulation de fréquence, rue de Merlan, rue Carnot et rue Bremet. Radio Coiffure Merlan, radio très locale, encore sur le 107.9, modulation de fréquence, boulevard Gambetta, avenue Pasteur et boulevard Michelet. Merlan Radio Coiffure, la véritable radio de proximité, toujours sur le 107.9, entre l'avenue Marceau, la rue d'Enfer-Rochereau et la rue des Carouges. Ne vous éloignez pas!
C'est pour la barbe ou les cheveux? Je vous laisse les pattes. Allez, je vous dégage la nuque. Oh, et bien dégagé autour des oreilles. Je vous mets du gel. Une petite couleur. Allez, on fait quelque chose pour les cheveux blancs. Bon, bien, je fais bien court, oui. Allez, on fait des mèches. Ça, c'est pour Pierre. Ça, c'est en plus. Je peux vous prendre à 18h. Oh, j'ai une petite place avant 20h. Allez, on est ouvert jusqu'à dimanche. Ah, mais bienvenue, bien sûr, bienvenue chez Pierre. Le salon où il y a de la lumière. Voilà, ça c'est beau. Allez. Il fait pas trop chaud, madame, sous le casque? Un petit thé, un petit café? Alors, qu'est-ce que je vous offre? Chocolat, lait, café, sucre? Une petite mise en pli? Alors, regardez, c'est un petit peu trop chargé là. Hein. Allez, j'en tout ça. Alors, oui. Regardez un petit tour de rétro. Regardez, ça vous va derrière la glace là. Regardez ça. Oh, super. Merci bien et à la prochaine. Et bonne journée.
Nous sommes devant chez Pierre et Pierre a encore fait une heureuse.
Et voilà.
Je présente Sandrine. Sandrine qui était une autre femme quand elle est arrivée ici. Quoi.
Voilà. J'étais brune, je suis blonde platine, sympa. Merci Pierre.
Il n'y avait pas de mèche. Il n'y avait pas de mèche quand vous êtes arrivée.
Si, j'en avais. Mais bon, elles étaient bien âgées. Bon ben je vous souhaite bon courage.
Alors nous, on se posait un peu la question là sur la vie rue Merlan, si la rue Merlan s'ennuie, c'est ça?
Un peu. Il manque des commerçants. S'il y avait autant de commerçants comme il y a 20, 25 ans, ça serait une super rue, hyper agréable. Malheureusement, il n'y a rien.
Alors, ils sont partis où les commerçants?
Je pense qu'ils ne devaient pas avoir assez de clientèle.
Mais alors
les petits bouchers, ils ne devaient pas s'en sortir. Ou alors ce sont peut-être des gens qui sont partis à la retraite. Là, je sais pas, ça fait demander à Pierre. Moi, je suis pas assez vieille dans le quartier.
Les gens, ils se ravitaillent où alors?
Les grandes surfaces.
Ah, les grandes surfaces.
Rony 2, juste à côté.
Rony
2. À pied, vous en avez pour 10 minutes. Hein. Là, vous avez tout.
Mais les mamies, elles vont avec leur cabas à Rony 2. 10 minutes à pied, elles reviennent avec les deux cabas remplis.
Je sais pas, les gens du quartier, je pense qu'ils vont dans le centre de Noisy.
Mais le centre, on y va à pied? Il faut une voiture?
Non, on se demande, à pied. Ah, vous n'êtes pas du quartier du tout?
Non, on n'est pas du quartier.
Ah, vous n'êtes pas de Noisy, hein?
Non.
Non, vous allez, si vous tournez, vous en avez pour 5 minutes à pied.
5 minutes à pied.
Vous êtes dans le centre de Noisy, vous avez...
Il y a tout ce qu'il faut
supermarché,
là-bas.
Supermarché, oui.
Et encore, il y a des commerces un peu de proximité?
Il y a un petit peu de commerce de proximité, mais pas au niveau alimentaire, très peu.
Ah oui.
Très peu.
Alors dans ces cas-là, on va au marché, non? Il y a un marché.
Oui. Mercredi, samedi, vous avez le marché.
Il est bien?
Il est bien, oui. Ouais. Il y a de tout et c'est assez agréable. Moi, j'y vais tous les samedis. Je trouve ça sympathique. Chez Noisy arrive à rester. Il y a encore pas mal de commerçants.
Alors, bon, sans rentrer dans la confidence, vous étiez boulangère.
Tout va se faire.
La boulangerie a fermé, là, rue de Merlan.
Oui,
on est très triste.
Je sais, je l'ai visité à une époque.
Mais alors maintenant, les gens de la rue vont acheter le pain où?
C'est pareil, il faut marcher un quart d'heure pour aller chercher une baguette ou aller à la gare, c'est pareil, un quart d'heure. Vous n'avez pas de pain.
Voilà, il n'y a plus de pain rue de Merlan.
Il n'y a plus de pain rue de Merlan.
Ça se gâte, hein.
Eh oui, on avait une crêperie, on avait une boucherie, on avait une pâtisserie. Hein, Pierre, il y avait des amis dans le quartier.
Je ne savais pas qu'il y avait une crêperie, c'était où?
Si. Juste où j'habite à peu près, le commerçant, l'épicier.
D'accord.
C'était en face, hein, là.
En face.
Où il y avait l'ancienne boucherie.
En face, le bureau de tabac.
Où il y a l'épicerie, là, actuellement, qui est très gentille aussi.
Il reste un épicier,
Il reste un épicier et un café. Et un taxiphone, maintenant, à la place d'un autre collègue qui était installé là-haut. Et voilà, l'historique. Mais l'historique, il est long à faire. Hein.
Ouais.
35 commerces dans le quartier, c'est ce que je me répète tout le temps, mais c'est vrai.
35
commerces.
35,
oui.
Vous allez interviewer
aussi les autres commerçants?
Oui, on va passer.
Pizzeria, là, qui est sympathique comme tout, il faudra aller le voir.
Hein,
qui a fait une petite table extérieure sympathique, et puis un épicier là-haut qui se donne un mal de fou, qui est sympathique aussi.
Ouais, très gentil.
Qui vend des glaces aussi, s'il fait chaud, j'espère qu'il aura. Ouais. Et puis notre café Malek, là, Malek, un vieux comme moi du quartier, son papa était du quartier. Voilà.
Et en fait, tout en haut de la rue Merlan, là, il y a la croix, là, il y a un petit Christ.
Ah, en haut, il y a un Christ en haut, mais c'est déjà plus Merlan, là, hein, c'est Stephenson, mais c'est encore...
Ah oui, après la place du Merlan, on n'est plus rue de Merlan.
Si, on est encore jusqu'en haut de la rue de Merlan. Dans le temps, il y a un autre café, mais c'est plus tout à fait... ils sont surtout sur la rue... La rue Vraiment, quoi.
Et c'est quoi, alors, ce Christ, là-haut là?
C'est un crucifix. Dans le temps, c'était il y avait un couvent au Londo. Et à mon avis, ça devait faire partie d'un chemin de croix. Parce qu'ici, il y avait un monastère aussi, en 16e siècle à peu près, au niveau du 88, là, de la Maison Jaune. Il y avait un monastère, oui. Il y avait des moines, là, oui. Et c'était... Non, oui, où tu habitais, là, oui. Ouais. Et dans les cours, derrière les bâtiments, il y avait des moines, mais en 1600, il y a des poussières. Et... Ah ouais, c'est pour ça. Il y avait une chaîne de puits aussi, des puits des maraîchers. Là. Sous le trottoir, là, ils ont comblé avec 4 bétonneuses de béton, bien sûr, de ciment, parce qu'il y a des puits qui étaient profonds de, je ne sais pas, moi, je me rends pas compte, une dizaine de mètres cubes, quoi, quelque chose comme ça, un truc énorme. Ils ont comblé avec des bétonneuses pour. Parce que ça s'écroulait, ça s'affaissait.
Et après, il y a des fermes.
Parce qu'il y avait la chaîne de puits, il y avait des fermes, hein, il y avait des maraîchers, il y avait tout. Ah oui, c'était. Ça, c'était avant la guerre, tout fonctionnait de ce côté-là. C'était des maraîchers, des cultivateurs. Voilà. Et ces puits étaient relayés. Il y a une dizaine de puits dans les petites cours. Là. Il y a peut-être pas une dizaine de puits, mais il y a 4-5 puits. C'était relayé par des cheminements, des relais, quoi, des petits ruisseaux, bêtes maçonnés. Uh-huh. Et comme ça, les maraîchers avec de l'eau partout. Quoi.
C'est pour ça que c'était très. C'est pour ça qu'on voit des grands porches comme ça, c'était des cultivateurs. Là-bas, ils rentraient des charrettes.
Et ça circule, dis donc, hein, on se disait avec Nicolas.
Et encore, il n'y a pas. Il n'y a plus beaucoup de voitures, mais dans le temps, il y a beaucoup de voitures.
C'est plus des rues, hein, disait Nicolas, c'est des routes maintenant.
Il faudra l'interviewer, notre ami Gilbert Hartmann.
Gilbert Hartmann. Bon, bah formidable.
Voilà. Voilà, bah de toute façon, c'est la plus ancienne rue Noisy, la rue Marie.
Avec la rue Saint-Denis, oui.
Ah, d'accord.
Elle est où cette rue?
La rue Saint-Denis, elle est derrière la gare. Elle monte derrière la rue Jean Jaurès. Voilà, les voisins qui arrivent. La rue qui s'anime, ils rentrent du boulot.
Bah, c'est la plus vieille rue, mais ils n'en prennent pas vraiment soin, hein.
Ça, c'est, il faut reconnaître, c'est pour ça qu'on entend les gens toujours un petit peu nostalgiques et les gens se plaindre un petit peu, quoi. Parce que la plupart ont connu autre chose, quoi. Mais il y a quand même l'esprit qui est là.
C'est un trognon de rue là qu'ils ont laissé quand même.
Ils ont un trognon de rue, voilà.
Il reste l'esprit un petit peu entre les gens, mais l'histoire de la rue, la culture de la rue, elle a fondu. Elle a fondu.
Fondu de Merlan d'ailleurs. C'est pas, on l'a pas fait exprès, mais c'est ça.
Fondu de Merlan,
c'est pas pour ça. Non, mais les fondus. Alors là, ça, c'est une autre histoire. Les moulins fondus, c'était un moulin qui se trouvait là-haut. Là.
Ouais.
C'est pareil, il y a une activité formidable. C'était un passage. Non, c'était un hameau de Merlan aussi. Moi, je me rappelle avoir pris le métro et avoir vu un grand plan d'Arty. On parlait de 68 tout à l'heure, en 68, quand je prenais le métro. Il y avait d'Arty, Noisy-le-Sec et Merlan. C'était renommé, il y avait Merlan indiqué. Ouais, c'était marrant, le lieu dit Merlan était marqué. Alors c'était, moi j'étais fier, c'était en 10 sur 10, quoi, c'était bien. Voilà. Eh oui.
Alors moi je suis très surpris parce que moi je viens pas d'ici on m'a dit va en banlieue, tu vas voir, il n'y a pas de culture, il faut aller mettre de la culture, il faut aller faire des manifestations de rue parce qu'ils n'ont rien, donc il faut aller petit peu réveiller tout ça. Mais alors, je suis surpris d'apprendre qu'il y avait un monastère, qu'il y avait des fermes, il y avait des choses alors.
Il y avait des choses.
Il y avait,
Mais c'est-à-dire que tout ça, c'était l'historique, il y avait quand même un passé, il y a un passé. Il y a une plaque, là c'était le chemin de Montreuil-Aclay, c'était un passage aussi de maraîchers et tout. Oui, il y avait quand même un passé hein, sur... Sur Merlan, quoi. Il y avait, je crois même que les trois mousquetaires ont été écrits là. Il y a un truc comme ça d'Alexandre Dumas, tout ça.
Les trois mousquetaires.
Les trois mousquetaires.
Il y avait
Athos. Athos était.
Mais
c'est je me demande, mais c'est vrai, c'est pas des blagues. Hein. C'est pas des blagues.
Il y a des personnalités.
Ah ben oui, je suis.
Eddie Mitchell.
Voilà.
Schmoll.
Voilà.
Claude Moine.
Ah ouais.
Lui-même. Ah, non, lui, il n'était pas là.
Ah oui, d'accord. Ouais. Le monastère, Claude Moine.
Non, c'est pas Claude Moine. Une petite pointe d'humour ne fait pas de mal, n'est-ce pas?
Ils sont partis, c'est bizarre.
Nous, on
ça,
est
c'est
là,
parce
nous.
Que les commerçants sont partis.
Voilà.
Ah oui, ils ne trouvaient plus de bananes.
Oh là.
J'ai droit, attends.
J'ai pas compris, moi.
C'est énorme, ça.
Là, j'ai pas suivi
j'ai
trop,
pas
là.
Suivi, moi non plus.
Ah, la banane.
Claude Moine.
On revient toujours sur
le moine, Claude, quand il sortait du monastère, il ne trouvait plus de bananes.
Chez Pierre le coiffeur.
Chez Pierre.
La banane.
Donc, il est parti.
Ami auditeur. Trois jeux de mots se sont glissés dans la conversation. Appelez désormais le 06 84 94 59 71 et répondez à la question. Quels étaient les jeux de mots?
Voilà. Bien sûr, les jeux de mots là, les jeux de motards, ça c'est encore...
Bon, ben voilà, sur ce...
Sur
un petit message personnel, achète tout document sur le Zeppelin.
Ah oui,
photos,
alors ça, c'est
jouets
très
divers d'époque.
On a des
téléphone 06 84 94 53 71.
Ça, c'est le monsieur qui habite dans la cour qui est amateur de Zeppelin et qui recherche quelque chose. Quand même, tu vois. Le Zeppelin.
Est-ce que le Zeppelin a survolé Noisy ou Merlan?
Le Zeppelin a survolé Merlan. Donc, forcément, le quartier de Merlan a été survolé constamment par le Zeppelin. Il faisait Paris, Merlan, New York. Voilà. Via Londres. C'est ou Berlin.
Sur cette information voilà. Vérifiée.
Ah oui, là. Si, il a sûrement survolé. Parce qu'il allait user Paris-Berlin. Donc le Bourget. Donc avec le vent. Tu peux rentrer, n'aie pas peur, ils sont pas obligés.
L'expression avec le monastère de...
Et on
des
burs
de Merlin. Au
revoir, messieurs.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Il ouais, faudra que je trouve un autre site. Je pense que temporairement.
C'est
Radio Merlan Coiffure sur le 107.9 à Noisy et sur FPP la nuit sur le 106.3.
Et nous retrouvons les studios du salon de coiffure.
Ouais, mais quand tu dessines dans la rue, c'est des arts de la rue ou quoi ?
Loïc Faujour dessine aussi avec la bouche.
La seule fois où je dessine dehors, c'est quand je suis... D'abord, je vais te dire une chose, j'ai horreur de dessiner des gens dans la rue. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de faire des portraits. J'aime bien faire des portraits, comme je disais hier, de mémoire. Ça, j'aime ça. J'aime avoir les gens en mémoire et les redessiner. Ça me plaît. La seule fois où je dessine dehors, mais c'est quand je suis en Bretagne, tu vois. Quand je dessine, je pars dans des endroits paumés où je croise personne de la journée, où je dessine des aquarelles pendant 3 heures, tu vois. J'ai jamais rien trouvé de plus zen. Pour moi, qui est un mec complètement speedé, je ressors de là complètement en pleine zénitude. Mais les aquarelles, tu vois, ça va 5 minutes. Hein. C'est pas avec ça que tu gagnes ta vie, d'abord et d'une. Et deuxièmement, il y a plein de dessinateurs qui font comme moi, qui font aussi des petites aquarelles l'été pour s'amuser, tout ça, parce qu'en fait, il n'y a pas d'idée à chercher, c'est reposant, il n'y a que le dessin à faire. Mais bon, le vrai métier, c'est de trouver des idées, c'est ça. Hein, tu vois, parce que des gens qui savent bien dessiner, moi j'en ai croisé des tonnes. Toi. Quand j'ai fait le journal Zoo, j'en ai croisé des tonnes, des gens qui manipulent bien le crayon, il y a des bons illustrateurs, tu vas au salon du livre de Montreuil, il y a plein de bons dessinateurs. Mais des gens qui ont un monde à eux, des gens qui ont des idées, qui ont des choses à dire, ben tu vois, c'est un peu comme à la recherche de la nouvelle star. Tu vois, c'est pareil. C'est incroyable de voir le nombre de gens qui sont talentueux au niveau musique dans cette émission là ou au niveau chant.
Loïc Faujour.
Qu'est-ce qu'ils ont à dire ? Pas grand-chose.
Faujour Loïc.
Mais là, Opposito est un client. C'est Guantanamo pour moi ici hein, pendant 3 jours. Hein. Il faut que je fasse 20 dessins, autrement c'est la schlag. Ça, parce que Jean-Raymond Jacob, ça plaisante pas. Tiens, lui, c'est vraiment. Voilà.
Tu disais dessiner les gens, ça t'emmerde. Mais c'est vrai que généralement, même quand tu dessines des hommes politiques, faut avoir de l'imagination pour trouver qui ressemble au vrai.
Ouais, mais moi je m'emmerde pas. Quand je dessine un homme politique, je m'arrange toujours pour coller son nom, soit dans le surtitre, soit avec un mec qui est à côté. C'est ça l'important, c'est de. Si j'avais su dessiner les hommes politiques comme Cabu, par exemple, j'aurais jamais été chercher des idées à côté, tu vois, pour essayer de botter en touche en disant qu'est-ce que je peux faire sur cet homme politique, je peux pas le caricaturer. Tu vois, il y a par exemple, je trouve extraordinaire un mec comme un dessinateur comme Lou, par exemple. Des fois, ces idées sur la politique sont pas forcément percutantes. Hein. Enfin, j'ai pas dit que c'était pas un dessinateur percutant. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Lou. Mais putain, il arrive à le dessiner de manière à l'expression. Tu vois, ça rend le dessin génial, quoi. Tu vois, et une idée qui est pas toujours formidable, lui, par le dessin, il la rend géniale. Moi, je peux pas ça. Moi, je peux pas rendre par le dessin l'idée géniale. Il va falloir que je trouve une mise en scène ou un truc comme ça. Donc voilà. Mais voilà.
Alors là, il y a des grands panneaux, ils font quoi, 1 mètre sur 1 mètre 50 ou 1 mètre sur 2, qui sont les dessins que tu as fabriqués cette nuit. Est-ce qu'on peut avoir deux, trois éléments sur comment s'est passée ta nuit ? La nuit de travailleur.
La nuit de travailleur. Et alors, moi, j'aimerais lancer une revendication. Le travail de nuit, c'est payé comment ? Opposito, déjà, et d'une, t'as. Hein ? Et puis, deuxièmement, ce que j'ai fait, je suis entré, j'ai mis tous les croquis sur la table, et puis j'ai mis à peu près tout ce que j'avais vu dans la journée, entendu. J'ai essayé de synthétiser un peu toutes les idées. J'ai regardé le programme. J'ai dit, tiens, c'est marrant. Qu'est-ce qui commence à telle heure? Par quoi on pourrait faire? J'ai discuté avec les gens de la grosse collection. Ça m'a donné des idées. J'ai mis des petits trucs en place. Et puis voilà. Et certains croquis que j'avais fait sur place, je les ai mis en couleur. Et ce matin, je me suis réveillé difficilement. Très difficilement même. Donc voilà, j'ai mis le réveil à 8 heures. Donc j'ai dû me lever à midi. Et j'étais dans la boîte de photocopie en bas de chez moi, qui est une tireuse de plomb, et ils m'ont tiré les 15 dessins en une demi-heure, et basta. Moi, j'ai pris mon petit vélo, je suis monté en haut de la côte des Lilas, et je suis redescendu jusqu'ici, puis voilà. Et ce soir, même chose, et demain soir, même chose. Voilà. Donc, respect pour les travailleurs.
Bah, tout à l'heure, de toute façon, on a décidé de faire l'interview permanente. Toutes les deux heures, on refait une interview avec toi.
Oh, les emmerdeurs, putain, c'est pas vrai. Putain, les gauchistes.
Bonjour Loïc. L'homme qui dessine à la radio, c'est Loïc Faujour sur le 107.9.
Qu'on l'ensemble, garde à vous. Repos, silence à l'appel. Chef de poste, vous faites la ligne 11 jusqu'à la mairie des Lilas.
Symbole de l'image offensive qu'entend donner Nicolas Sarkozy à sa politique, le flashball.
Il suffit de déclencher le tir.
Putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie ?
Qui est-ce qui a fait ça ?
Je vais les flics.
L'autre monsieur, il s'est sauvé et Reda, il s'est fait choper par la police. Et quand il n'avait pas de papier, ils l'ont ramené à Noisy-le-Sec. Quand ils l'ont ramené à Noisy-le-Sec, ils ont fait une perquisition. Ils ont regardé dans toute la maison, il n'y avait rien du tout, ils n'ont rien trouvé.
J'ai dû mettre l'accent sur les incohérences entre ce qui a été dit par la police et les faits, puisque apparemment il a eu la capacité de menotter, de se lever et d'accéder jusqu'au porte-balcon et de se jeter, sachant que trois policiers étaient tout autour de lui et que justement lorsque on est en présence d'une perquisition, les policiers sont censés assurer une surveillance importante autour de la personne qui est perquisitionnée à ce moment-là, et ce qui n'a pas été le cas puisque d'après ce qui a été dit par les policiers, il a eu la capacité de frapper un policier, de se lever, de courir, d'ouvrir le porte-balcon et de sauter menotté. Donc tout ça semble être un petit peu incohérent, et c'est nous ce qu'on souhaitait le jour de la manifestation, c'est d'avoir un peu plus d'éléments et d'être un peu plus éclairé sur ce qui s'est réellement passé et ce qu'on n'a pas pu avoir jusqu'au jour d'aujourd'hui en fait.
Alors si je résume dans les grands traits, ce qui s'est passé, Reda est arrêté, il est mis en garde à vue, il n'a pas de papier sur lui, et lorsque la police l'accompagne à son domicile pour qu'il aille chercher ses papiers d'identité, éventuellement des affaires, à ce moment-là, selon la version policière, il aurait tapé sur un policier, puis ouvert la fenêtre, puis il aurait sauté du 9e étage. Et vous, cette version-là, ce que vous dites, c'est qu'il y a trop d'incohérences, c'est ça ?
Comment voulez-vous qu'il va frapper un policier, partir, ouvrir la fenêtre, pousser le sèche-linge, le double rideau, et remonter le store, les mains au dos, toujours menottées, et aller plonger du 9e étage ? C'est impossible. Nous, on cherche à savoir la vérité, c'est pas normal, ça. Il y a quelque chose qui tient pas debout. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas.
Pour nous, en tout cas, là, il y a une responsabilité de la part des policiers, dans la mesure où, dans tous les cas, soit ils sont responsables de sa mort parce qu'ils pourraient l'avoir poussé ou avoir une relation avec cette mort-là, soit de toute façon, ils sont responsables parce qu'ils sont responsables de sa sécurité et d'assurer justement d'être présents, d'assurer la perquisition. Donc dans les deux cas, ils n'ont pas fait leur travail et puis ils sont responsables quoi qu'il arrive, quoi. Et le fin mot d'histoire, c'est qu'il n'y a pas eu de... Ils ont eu rien, apparemment. Hein. Ils n'ont pas été condamnés. Il n'y a pas eu de poursuite contre les policiers qui étaient censés assurer la sécurité et qui étaient responsables à ce moment-là de Reda Semoudi.
Alors, Fouzia.
En fait, moi, je suis très habituée à ces affaires-là. Il est vrai que... On essaie toujours de masquer la vérité et d'en faire de pas procéder dans en fait quand on fait des procédures pour ces enquêtes là elles sont bâclées d'entrée, la procédure a été bâclée, le fait que nous puissions aller directement à l'appartement une heure après voir la femme de la victime.
Tu parles de l'appartement perquisitionné?
Oui, il y a eu déjà l'enquête a été bâclée par la police des polices qui était sur place, et puis un mépris total parce que j'étais là le matin même, et une excitation aussi de la police, des polices, et vraiment une excitation très forte et à vous envoyer balader, même quand vous vouliez parler à la femme du défunt. Donc, c'est qu'ils étaient vraiment mal à l'aise. Et ils ont voulu vite boucler l'affaire. D'ailleurs, l'affaire a été vite bouclée parce qu'après avoir porté plainte, elle a été classée sans suite. Et donc, il y a une autre plainte qui a été faite contre X. On a repris les incohérences des trois versions de la police, des trois flics qui étaient présents là. Et c'est vrai qu'il y a une incohérence dans la version des trois. Donc, nous attendons là.
Je vais les flics.
Alors on est toujours avec donc Fouzia, Rachid, Samira et Clotilde. On discute on essaye de retracer un petit peu ce qui s'est passé dans, entre guillemets, l'affaire Reda Semoudi, qui le 8 janvier 2008 tombait du 9e étage de son immeuble. Et évidemment, tous les doutes que vous exprimez sur dans quelles conditions est-ce qu'il a pu, tomber. On peut parler peut-être aussi de la mobilisation qu'il y a eu dans les jours qui ont suivi, la famille, les amis, le quartier, les associations. Je ne sais pas qui veut évoquer ça. Clotilde ?
Comme je suis à RESF et que je suis voisine, je suis allée voir un peu ce qui se passait, parce que c'est passé par le tam-tam, quoi. Et en fait, comme il y a beaucoup de gens qui étaient au courant, qui avaient envie de faire quelque chose, qui voulaient connaître la vérité, et puis surtout pas laisser la jeune femme de Reda Semoudi toute seule, parce qu'elle est enceinte, elle attend un bébé qui devrait bientôt naître, d'ailleurs je crois dans quelques semaines, hein, ou dans un mois. Puis il y avait deux petites filles aussi, les petites filles de Rachid là, qui est à côté, qui vivaient avec. Moi, c'est assez dramatique. Donc, en fait, les associations, les organisations politiques et syndicales de Noasis sont senties concernées. Et il y a eu une première manifestation qui a été organisée le samedi suivant, auquel ont participé le MRAP, la Ligue des droits de l'homme, la FSU, la CGT, le Parti communiste, je sais plus quoi encore, enfin à peu près tout ce qu'il y avait d'un peu vivant à Noisy-le-Sec, pour demander vérité et justice pour Reda Semoudi, parce que sans essayer de... On ne sait pas ce qui s'est passé, on veut savoir. Et de toute façon, comme disait tout à l'heure... Samira, qu'il l'ait poussé ou qu'il l'ait pas poussé, de toute façon, ils en sont responsables. Ils étaient là pour surveiller, pour garantir sa sécurité. Et on est étonné que la police soit pas capable, même si ce n'est que ça, de dire oui, voilà, il y a eu faute. Il y a eu faute, ils l'ont pas surveillé, ils s'en sont pas occupés, ils ont pas veillé à ce que il soit protégé, et voilà, on a fait une erreur, et puis que ceux qui ont fait l'erreur, ils soient sanctionnés. Et le fait de ne pas savoir, ça laisse aussi galoper les imaginations. Et c'est bon pour personne. Donc, on ne comprend pas très bien pourquoi on est toujours au point de départ. D'autant qu'on a espéré qu'il y ait un juge d'instruction qui soit nommé. Il n'a pas été nommé, donc il a fallu que des membres de la famille portent plainte. Pour que ils prennent un avocat, pour que enfin on ait l'espoir que un juge d'instruction soit nommé. Bon, pour l'instant, visiblement, l'affaire suit son cours doucement, c'est super lent, mais pour l'instant, c'est pas classé, pas encore. Voilà. Mais c'est long, c'est long, c'est long. Et si ça doit durer 2, 3, 4 ans, c'est bon. Des fois, on sait qu'il y a des cas comme à Mantes-la-Jolie qui ont duré 10 ans. Avant qu'on connaisse la vérité, on se demande comment le petit qui va naître, il va grandir dans cette espèce de doute, dans l'incertitude, parce que quelle que soit la vérité, il vaut mieux toujours la savoir que de ne pas savoir.
Vas-y, Rachid.
Moi, ils le présentent comme revendeur de Subitex et tout ça. Moi, si j'aurais vu que Reda Semoudi vendait des Subitex ou fréquenter ce genre de, ou toucher à ce genre de trafic. Moi, j'ai mes deux filles qui vivent avec Reda Semoudi. Reda Semoudi était mariée avec mon ex-femme. J'ai divorcé. Bon, elle refait sa vie, comme moi je refais ma vie. C'est normal. C'est la vie suit son cours. Mais si Reda Semoudi était un délinquant, vous croyez que j'aurais pas demandé moi la garde de mes enfants? Moi, j'ai posé la question à mes filles. Mes filles, elles ont 9 ans, les deux. Quand je leur dis à mes enfants comment il était Reda, ils me disent non, papa, il est gentil avec nous, il est très bien, ceci, cela et tout. Vous savez que je peux même leur amener des preuves qu'on croit qu'il a travaillé chez des gens à 20 euros et 30 euros par jour, en faisant de la peinture, en cherchant des caisses dans des usines et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais il n'a jamais touché à ça. Il faisait la prière, il ne volait pas, il ne touchait pas à l'alcool, il faisait rien, c'était un religieux. Et vous savez, je dis ça comme entre guillemets. Dans l'islam, d'abord, c'est péché de se suicider. C'est impossible. Pour un religieux, je crois que c'est grave. Et quand une personne va dire, tiens, moi, je vais sauter du 9e étage, vous savez qu'il n'a aucune chance de survie. C'est impossible. Alors là, c'est un suicide. C'est pas normal, ça. Moi, pour moi, à mon avis, Reda Semoudi a été frappé dans la maison. Alors, quand il a été frappé, les policiers ont fait une erreur. Alors, quand ils ont vu qu'ils ont fait une erreur, ils ont fait une bavure, et ils ont eu peur. Ils sont arrangés entre les trois. Ils l'ont balancé par la fenêtre. Un point barre, c'est tout. Voilà, moi, mon minimum imagination, c'est ça. Et ça, je peux vous jurer sur la tête de mes enfants. C'est ça que c'est passé. Et ça fait vraiment de la peine. Je parle pour Reda Semoudi quand je veux parler pour quelqu'un d'autre, pour que la justice soit faite, pour que la police arrête d'harceler les gens. Arrête d'harceler les gens. Vous croyez qu'une personne arrêté sans papier, même s'il est arrêté avec 2 tonnes de cocaïne. 2 tonnes de cocaïne. Vous croyez qu'il va aller se suicider? Il va se suicider pour ça. Il va rentrer en prison, il ressort. Et alors, il attend un enfant. Il va rentrer en prison, il va ressortir. Quelqu'un qui va aller pour être expulsé, vous croyez qu'il va aller se suicider? Moi, ça fait 35 ans que je suis ici en France. J'ai fréquenté des gens et des personnes que bien. Je vous dis quelque chose. La police, moi je la connais la police. La police, elle est trop trop agressive avec les gens. Ils essayent de taper le tout pour le tout et pour dire n'importe quoi. Pour dire n'importe quoi et envoyer. C'est le quota de hortefeux. Il faut faire un quota, il faut envoyer. Et voilà. Il faut les compter par 1, 2, 3 jusqu'à 1000. Quand ils arrivent à 2000, 3000. Et hop, on a envoyé, on a fait ça. C'est de la connerie. Moi, je vous dis que Reda Semoudi ne s'est pas suicidé. Ça a été une bavure policière.
Est-ce qu'on peut dire 2 mots peut-être sur ben justement, on a commencé à évoquer qui était Reda. Alors, sa situation, il était en situation irrégulière. Enfin, peut-être, Clotilde, tu peux dire 2 mots aussi sur ce que ça implique derrière, souvent comme situation dramatique, cette peur de la police permanente. Et enfin, on a vu des situations assez dures, entre autres, qui ont été prises en main par RESF.
Bah, être jeune sans papier, ça veut dire qu'on peut pas travailler. On a peur tous les jours quand on rentre, quand on sort. On peut pas sortir. On peut pas aller en boîte. On peut pas s'amuser. On peut pas aller en pleine nuit se promener avec des copains, faire la fête. On a droit à aucune aide. On a droit juste à l'aide médicale d'État, juste pour pas mourir. On travaille au noir. C'est-à-dire qu'on travaille pour 3 fois rien, on cotise pas à la sécu, on cotise pas à la retraite, on n'est pas obligé de payer des impôts, mais il y en a en plus qui payent des impôts, effectivement, pour gagner quelque part le droit de rester ici. Et puis les dossiers sont présentés 1 fois, 2 fois, 3 fois à la préfecture, retoqués, et chaque jour ça peut être une interpellation qui emmène au centre de rétention administrative avec l'expulsion en avion quelques jours après, quoi. Et je sais qu'il avait rencontré le sous-préfet de Bobigny une dizaine de jours avant sa mort. Il lui avait parlé, il avait raconté son cas. Ça faisait 9 ans, je crois, que Reda était en France. Donc ça faisait longtemps. Il était le mari de Tassadit, qui elle est en situation régulière. Il allait avoir un enfant. Donc on pouvait penser que avec un dossier qui s'améliore, qui se présente comme ça, il avait des chances d'avoir un titre de séjour. Et c'est pour ça que c'est bizarre qu'il soit suicidé. Ou alors il y a une telle pression psychologique sur lui, entre son arrestation, qui était la veille, et le jour et l'heure de la perquisition, qu'il a pété un plomb, et on ne sait pas ce qui s'est passé, quoi. Mais a priori, comme ça, vu de loin, on se dit c'est quand même curieux. Son histoire avait l'air de s'arranger, quoi.
Mais ceci dit, tu évoques quelque chose, c'est un peu la boîte noire. Entre le moment de son interpellation et le moment où il y a la perquisition chez lui, manifestement, vous n'avez aucune information sur quel sort lui a été réservé pendant ce temps-là.
On n'a aucune information. Apparemment, il avait, d'après ses sœurs et sa famille, il avait l'habitude de se faire tabasser par les flics, donc je ne sais pas. Là, on ne sait pas. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé.
Pour conclure, c'est que la mort de Reda Semoudi n'est que l'une des morts qui suscite la suspicion, sachant qu'il y a eu d'autres morts récemment, notamment d'un Africain et puis d'un autre jeune de 22 ans récemment, j'ai oublié leur prénom.
Il y a Lamine Dieng qui s'est arrivé dans le 20e arrondissement à Paris.
Voilà, donc ces deux morts-là ne font que contribuer à accentuer justement la suspicion initiale qu'on avait au moment de la mort de Reda Semoudi. Le nombre de questions qu'on se pose autour du pourquoi et quelle est la nouvelle idéologie de la police, est-ce que c'est de réduire... quitte à tuer les sans-papiers. Est-ce que les sans-papiers sont devenus des sous-hommes ou des gens à éliminer, comme on élimine les cafards ou, enfin, je ne sais pas. Enfin, ça pose de nombreuses questions sur la démocratie en France, sur les idéaux en France, sur tout ce que représente la France. Enfin, ça, c'est choquant justement pour un pays développé comme la France. Tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, quoi. Donc voilà.
Les flics. Noisy-le-Sec, après s'être doté de la plus grande compagnie de théâtre de rue du monde solvable, Noisy-le-Sec se dote aujourd'hui d'un puissant outil de communication et de propagande. Radio Coiffure Merlan. Écoutez Radio Coiffure Merlan sur le 107.9.
Et sur SPP la nuit sur le 106.3.
Mais que s'est-il passé alors qu'il y a 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure seulement, c'était le voisinage Bon Enfant. Tout semblait devoir se passer dans les meilleures traditions. Je vous rappellerai à tout à l'heure.
Et maintenant, en direct, comme vous le disiez tout de suite, les CRS chargent. Je suis en plein dans la charge des CRS, ils contre-attaquent tandis que les pierres volent autour de nous, que les grenades explosent. C'est extraordinaire ce spectacle. Et à deux pas de là, les manifestants refluent, tandis que autour de moi, les pierres tombent de tous les côtés. Vous entendez les CRS qui crient pour s'aider mutuellement. Mais vraiment, c'est une scène d'émeute extraordinaire. Mais je fais très attention, excusez-moi si je suis un petit peu essoufflé, parce qu'on est obligé de courir, de faire attention aux pierres qui tombent de tous les côtés. Je vois là-bas des CRS qui sont parvenus au contact, et il y a des coups très très sévères qui sont échangés, et une nouvelle fois les voitures font les frais de l'opération, car les voitures ont été mises en travers de la roue. Voilà une pierre qui tombe juste à côté de moi. C'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici, une scène d'une violence inouïe.
Je vous rappellerai à tout à l'heure.
Merlan Radio Coiffure. Pourquoi descendre dans la rue? Moi, j'écoute dans mon transistor les 17e rencontres d'ici et d'ailleurs.
Et puis Pierre Lampenac, qui se trouve au milieu des manifestants, nous disait tout à l'heure que la situation s'était aggravée. Il nous disait il y a à peu près un quart d'heure. Qu'en est-il maintenant, Pierre Lampenac?
Effectivement, les barricades ne sont plus Bon Enfant comme elles l'étaient tout à l'heure. Bien sûr, aux fenêtres, il y a tout le temps les habitants du quartier qui ravitaillent les étudiants en foulard et en mouchoir, car de nouveau, il y a des gaz. Il y a des gaz de nouveau, les représentants du service d'ordre, les membres du service d'ordre ont envoyé des grenades au chlore, me dit-on, lacrymogène, ajoute d'autres. De toute façon, maintenant la situation se durcit.
Si vous avez deux transistors chez vous, pendant que madame manifeste dans sa cuisine, vous pouvez, monsieur, manifester dans votre salon avec les authentiques artistes de la...
Maintenant, la situation est tendue, maintenant les slogans fusent. On travaille avec un peu plus d'ardeur que tout à l'heure sur les barricades. Les barricades où flotte maintenant le drapeau rouge.